Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas, située à Limoges, au 7 rue des Halles, sur 90.5. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure le meilleur du Sud-Ouest grâce au château Saint-Louis, et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le salon des Outsiders du Guide Carin qui va se dérouler dans quelques jours à Paris. Un coffret découverte aussi de la cidrerie Lobinière en Bretagne, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans la vallée de la Loire. Donc on va se régaler avec ce Vino Quiz, et pour nous accompagner aujourd'hui, Laure Gasparotto, The Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
Et Philippe Forbrach, notamment meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Étienne Simonis. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors racontez-nous votre histoire, elle est en votre histoire de famille. Là, vous êtes en Alsace depuis le XVIIe siècle.
C'est ça, depuis 1660. Donc ma famille est venue de Savoie en 1660.
Ah oui, c'était la grande exportation, la Savoie pour l'Alsace. Hein.
Bah, surtout à l'époque.
Absolument.
C'est l'époque. Donc on est venu à Meurschwihr en Alsace.
Ouais. Donc, à Meurschwihr, juste pour situer par rapport à New York et Pékin, c'est où ?
C'est à côté de Kaisberg, si vous voyez.
Ah, très bien.
Colmar, donc ouais. On est à 8 km de Colmar, à 2 km de Kaisberg. Ouais. Voilà, pour vous situer, quoi, on est vraiment au centre de l'Alsace. Et donc ma famille travaille la vigne depuis 1660. Voilà.
Depuis 1660 ?
Voilà, c'est ça.
Philippe Orbach, c'est incroyable. Il n'y a qu'en Alsace qu'on trouve ça. Enfin, quasiment qu'en Alsace.
Quasiment qu'en Alsace. Et puis surtout, ces lignées familiales. Oui. Il y a des incroyables histoires de succession, d'héritage, etc. C'est la raison pour laquelle il y a ces terroirs juste extraordinaires.
Absolument. Et puis des gens formidables.
Dont on a des références dans chaque famille.
Allez, Laure ?
C'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez cette association qui s'appelle les Enochiens.
Absolument. Les entreprises toujours familiales qui ont plus d'un siècle ou de deux siècles.
Deux siècles, ouais. Et dont le descendant du fondateur est toujours dirige toujours l'entreprise. Et on trouve parmi ces associés des domaines viticoles en Alsace, plus qu'ailleurs.
Ouais, c'est sûr.
Et je pense au domaine Huguel, par exemple, qui a plus de 600 ans. Enfin, c'est formidable. Ouais.
Oui. Alors, en Alsace, donc, vous avez combien d'hectares au total ? Racontez-nous.
Oui, donc on a 7 hectares de vignes.
Oui.
Voilà, donc qui sont situés, tout ce qui est quasiment que sur Meurschwihr. Une parcelle sur Sigolsheim, qui est le village à côté, une parcelle à Benvir, une parcelle à Kaisberg, voilà, qu'on a cité tout à l'heure. Voilà. Donc on fait tous les cépages, passant du Sylvaner au Pinot Blanc, au Riesling, au Gewürztraminer, des vendanges tardives, voilà, et encore quelques cuvées autres qui sont un peu notre fierté, mais dès qu'ils sont...
Vous êtes fiers de tous vos vins,
quand même. Quand même.
Oui, votre fierté aussi. Et on fait des cuvées un peu autres, on fait des blancs de noir, on fait...
Attends, Philippe Forbrach, un blanc de noir, c'est quoi ? Ça se complique, cette émission. Hein.
Parce que, la plupart des vins, surtout en Alsace, sont des blancs de blanc. C'est-à-dire que ce sont des vins blancs élaborés à partir de raisins blancs. Mais la nature fait que, comme c'est la chair qui est blanche et la peau qui est rouge pour les raisins rouges de cuve. En général, sauf les cépages teinturiers qui sont rouges et rouges.
Je vois quelques auditeurs qui rougissent, mais continuez.
Exactement.
Philippe,
hein. Donc quand on presse du raisin rouge, finalement le jus est blanc. Et c'est que quand on fait macérer la peau qui est celle qui concentre les pigments colorants, qu'effectivement le jus se colore. Donc on peut faire effectivement un vin blanc à partir de raisins rouges, c'est ce qu'on appelle le blanc de noir.
Vous êtes quel cépage en fait, c'est du pinot noir,
donc,
c'est ça?
Là c'est le pinot noir, donc on est à 100% pinot noir en Alsace. Donc ce vin-là s'appelle Zèbre.
Le zèbre.
Bah oui, puisque c'est un blanc de noir. Hein.
C'est ça.
Ah, oulala.
Ça se complique, là.
On s'amuse bien, quand même.
Il faut lire entre les lignes.
Ça, c'est bien fini aussi.
Et donc, vous avez combien de cuvées, en tout cas?
Vous avez un cheptel de combien de cuvées, alors?
Entre 25 et 30 cuvées différentes. Donc, une parcelle, une cuvée.
Heureusement qu'il n'y a que 7 hectares.
Donc là, c'est une ferme où il y a des animaux.
Non, pas du tout. Non,
mais je parle le zèbre.
Et puis alors, bien sûr, on a des terroirs qui sont des grands crus, le grand cru Kreferkopf, le grand cru Mark Rhein. Donc tout ça, on les met à part, on les vinifie à part, on les commercialise à part. Et ces
grands crus, ils sont nés comment ? C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on pense au classement de 1855. Chez vous, c'est pareil ? C'est-à-dire qu'il y a un jour un monsieur qui a dit c'est comme ça ? Ou comment ça s'est passé ?
C'était toujours. Mais disons, on prend le cas du grand cru Kreferkopf.
Ouais.
On avait c'est le plus vieux terroir délimité en Alsace en 1932. Voilà, donc c'était déjà, nos anciens ont déjà remarqué que dans ces parcelles-là, il y avait quelque chose de différent.
Ouais.
Voilà, et ils ont bien vu que ces vins avaient une différence entre d'autres vins et les ont mis à part. Et donc la différence, bah, c'est aussi la conservation du vin, l'équilibre, la puissance du vin. Quoi, oui.
Philippe Urbach.
Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une décision et aide, et notamment Théo Faller, je pense à lui. Hein.
Oui.
Mais il n'était pas seul, mais à son époque-là, c'était les milieux des années 70, puisque je crois que le premier cru, c'est 75-76.
1975, oui.
Voilà, 75-76, avec notamment sur Kensheim. Hein. Oui. Le Kaisersberg, etc. Voilà. Vous citiez le Kafferkopf qui est un de vos crus.
Oui.
Finalement, ce qui est paradoxal, c'est le plus ancien et c'est celui qui a été reconnu grand cru le plus récemment.
Oui, en 2007, oui.
Et donc, c'est marrant parce que ça a toujours été considéré comme un cru à part. Et finalement, dans la classification initiale des grands crus d'Alsace qui date de milieu des années 70, il n'y était pas.
Oui. Pourquoi ?
Pourquoi ? Peut-être parce que les vignerons de l'époque, ils se considéraient que le Kafferkopf était assez connu. Il n'avait pas besoin de rentrer
dans ce club fermé.
Voilà, et donc, en 2007, s'est posé la question si on veut ou pas être en grand cru. Et là, c'était, je pense, obligé de rentrer dans les grands crus, voilà, dans cette famille.
Alors,
mais là, c'était le dernier, mais par exemple, pour les créments, l'Alsace était le premier des créments de toute la France. C'est en 1975.
Oui, c'était aussi
c'est l'Alsace qui a donné l'exemple.
Oui.
Vous en produisez un peu de créments.
J'en produis aussi, voilà. Et c'est vrai que maintenant, l'Alsace produit quand même. On est les plus gros.
Quantité et qualité, les deux.
Oui, c'est ça. Mon créments préférés en Alsace.
Absolument.
Voilà,
mais les terroirs.
Je trouve que parmi mes préférés, c'est en Alsace que je l'ai trouvé.
Notamment celui d'Étienne, on va le dire.
Voilà, par exemple.
Et c'est vrai qu'on est toujours sur ce côté fruité, quoi. Voilà, sur ces vins-là, on est toujours ce côté fruité, voilà. Et c'est des vins très intéressants.
Philippe Aubrac.
Dans tous les cépages que vous avez cités, il y en a que vous n'avez pas cité, qui est le chardonnay.
Ah, bah quand même.
Qui peut rentrer dans l'élaboration des créments d'Alsace.
Des créments.
Est-ce qu'il était là déjà il y a quelques siècles, le chardonnay ou pas ?
Pas en Alsace, il est assez récent. Quoi.
Voilà, en tout cas, il était le bienvenu.
Et parlez-nous de votre type de culture, parce que vous avez même.
Alors,
mode
moi, je travaille en biodynamie. Donc, on a commencé la biodynamie en 1999.
Ah
donc
oui.
Maintenant, ça va faire 25 ans, voilà, où on travaille en biodynamie. Donc, je me vois pas faire autre chose parce que
L'Alsace est assez pionnière aussi dans cette culture.
Oui, quand même. On est.
Vous avez constaté des effets sur le goût du vin ?
Oui. Alors, bien sûr, moi, j'ai déjà vu un effet. Sur l'environnement, voilà, c'est déjà la première chose. Pour nous, la biodynamie, c'était déjà ça, c'était l'environnement, c'était les terroirs, préserver les terroirs, préserver la plante, la vigne, voilà, préserver l'être humain qui est dedans, le vigneron, moi, voilà, et respecter aussi le consommateur derrière qui va boire la bouteille.
Et c'était pas trop galère en 99 parce que c'était les balbutiements. Je pense que vos petits copains voisins n'étaient pas tous convertis comme vous.
Non, c'est ça, et le climat était aussi un peu différent.
Oui, c'est ça, et le climat septentrional.
Il faut prendre des risques dans la vie, voilà. Tout simplement, et puis on le voit.
Vous
n'avez
pas planté, vous n'avez pas loupé des trucs en disant, finalement, je retourne dans le conventionnel parce que j'en peux plus de plus avoir de tel ou tel vin.
Non. On s'est planté, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais.
Absolument.
Mais entre la bio et la biodynamie, entre la culture biologique et la culture biodynamique, vous n'aviez pas hésité ?
Oui, c'était tout de suite la biodynamie.
Ah, vous nous rappelez la différence parce que l'auditeur ne le sait pas forcément.
Disons, pour le bio, c'est de ne pas utiliser des produits de chimiques, de synthèse et ainsi de suite.
Donc il y a une liste de produits proscrits ou à l'inverse autorisés.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi des produits œnologiques qui sont aussi autorisés en bio. Et tandis que moi, je suis certifié Demeter, donc c'est l'agriculture biodynamique. Donc le cahier des charges, un peu plus strict alors, oui. Donc c'est pas que pour ça, mais en fait on dans les vignes aussi il y a des préparations biodynamiques, donc c'est tout ça pour renforcer le sol, la plante, donc tout ça pour avoir des jolis raisins.
Mais alors pourquoi tous les vignerons de France ne sont pas en biodynamie ? Non mais franchement, puisqu'il n'y a que des bienfaits, visiblement.
Peut-être faut être aussi un peu convaincu, voilà. Faut être,
Et puisque moi j'aime dans le vin, c'est qu'il n'y a pas une seule chapelle et que c'est un grand monde de liberté
aussi. C'est vrai aussi.
Voilà, chacun interprète le terroir à sa manière.
Plus c'est naturel, mieux c'est quand même, sur principe. Hein,
Oui, mais la biodynamie, ça va quand même assez loin dans certains principes.
Et comme je suis toujours un peu dans la lune, donc ça...
C'est un zèbre dans la lune.
C'est vrai que le calendrier lunaire est très important dans la biodynamie.
Donc il y a des petits petit rythme. Et puis avec ma superficie, bah, on arrive à.
Pour terminer, dites-nous, ça va de combien à combien, votre gamme de prix là, pour,
Oui, donc on va de 11 euros à 30 euros à peu près.
Ouais, donc c'est quand même super raisonnable. Quoi. Et alors justement, la température de service de votre Riesling par exemple,
bah, là, on sera sur des vins secs, on sera sur des 10-12 degrés. Voilà,
10-12 degrés, quoi. Oui. Ouais. Et le Pinot Noir, il peut durer chez vous? On peut l'attendre?
Ouais, bah c'est des vins qui sont bien sûr, on peut les boire tout de suite, mais on les pourra boire dans 4, 5 ans, 10 ans.
Merci beaucoup, Étienne. Oui. Vous avez un site internet, une adresse peut-être?
Oui, alors c'est vins au pluriel, tiré du 6.
Oui.
Simonis, simonis.fr.
Merci beaucoup, merci Laure Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Limoges, par exemple au 7 rue des Halles, sur 90.5. On vous remercie d'être toujours très très nombreux à nous suivre chaque week-end, tous ces amateurs de vin Invino. Maintenant, c'est le Vino Quiz, mon cher Philippe Aurobrac, avec vous Philippe.
Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le Salon des Outsiders du Guide Carin à Paris. Un coffret découverte de la cidrerie.
Qui va se dérouler les 17, en très peu de temps, 17 et 18 novembre.
Absolument, dans quelques jours. Mais également un coffret découverte de la cidrerie Lobinière, à découvrir d'ailleurs sur cidrea.fr, ainsi qu'un coffret gourmand des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. Concentrez-vous. La question de la semaine dernière était, qu'est-ce qui caractérise le vigneron Antoine de Lafarge, justement? Réponse A, il était petit-fils des fondateurs de l'appellation Mentoux-Salon. Okay. Réponse B, il danse dans la vigne. Réponse C, il est le petit-fils d'un ancien seigneur de Loire.
Et donc la bonne réponse est...
Et c'était la réponse A, petit-fils d'un des fondateurs de l'appellation Mentoux-Salon.
Cette semaine, Philippe.
Attention, hein. Tout se passe là dans quelques instants. Dans quel village alsacien se situe le domaine Étienne Simonis?
Attention.
Réponse A, Bagnouls.
Bagnouls-sur-Rhin, oui.
Peut-être.
Oui.
Voilà. Réponse B, à Merschwihr. Réponse C, à Isigny-sur-Mer.
Ah,
voilà. C'est très compliqué. Cette semaine, c'est très très compliqué.
Pour écouter l'émission, pour vraiment ce petit souci.
En tout cas, pour répondre, je suis sûr que vous allez trouver la bonne réponse. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Aurobrac. Invino Sud Radio a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir maintenant Benoît Lamoudi. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Alors, racontez-nous ce château Saint-Louis, là. Tout débute avec, en 1878, avec Prosper et la société Herbeau.
Oui, effectivement, c'est le grand-père maternel de ma mère. Du côté de ma mère, une famille de vignerons, commerçants. Ma mère qui a fait ses études de droit à Toulouse, finalement, a rencontré mon père, qui lui n'était pas du tout prédisposé à ce milieu, puisqu'il venait, il venait en France, à Toulouse, pour faire sa prépa.
Ah oui.
Il venait de Téhéran, où il était né, où il avait suivi sa scolarité au collège, lycée français, puisqu'à l'époque, c'était langue, on va dire, d'État. Et ils se sont rencontrés à Toulouse, ils sont partis dans leurs carrières respectives, ils sont venus à Paris, ma mère pour travailler en banque et mon père pour être physicien d'hôpital sur les premiers traitements de radiothérapie.
Bon, ça commence mal.
Ça
pour
commence
l'instant, il
n'y
a,
voilà. a pas trop de vin. Pour l'instant, on se dit, est-ce qu'il y a un rapport? Il se trouve que c'est le côté scientifique de mon père qui avait plu à mon grand-père maternel. Il lui a dit, mais quand même, c'est bête, on a un vignoble familial, ce serait bien de venir travailler avec nous. Donc, ils ont commencé à travailler avec mon grand-père et petit à petit, en 91, mon père s'est dit, j'ai quand même envie de faire quelque chose à moi. Et c'est là où il a trouvé un lieu qui s'appelait Saint-Louis. Il a dit, c'est génial, le lieu s'appelle Saint-Louis et on doit pouvoir faire du vin. Il y avait quelques vignes.
Et c'était où Saint-Louis, là?
Et c'était à la Bastide Saint-Pierre, donc juste à côté, en face du domaine qu'avait mon grand-père.
D'accord, mais c'est où exactement dans le sud-ouest?
Entre Toulouse et Montauban.
Ah, voilà.
Donc on est à 20 minutes de Montauban, 35 minutes de Toulouse.
Et Saint-Louis, c'est le nom du lieu-dit ou d'un hameau?
Oui, voilà, c'est le lieu-dit. Donc c'était une, on va dire, une bâtisse, vieille ferme qui a été rénové entièrement. Mon père a dessiné les plans, tout rénové, avec un style qui lui était propre, puisque c'était à la fois un côté perse, un côté toulousain, qui était mélangé, pour faire dès le départ en sorte que tout soit visitable. Il aimait bien qu'on puisse découvrir les coulisses
de
tout.
Le tourisme avant l'heure.
Exactement. Exactement.
C'est chouette. Et il rendait la justice aussi comme Saint-Louis, pas du tout?
Alors, il y a quelques chaînes pour coller à l'histoire. Il y a des cuvées, chaînes de Saint-Louis, pour se rappeler. Mais non, il n'y avait pas encore tout ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est une aventure qui commence un peu de façon, on va dire, détournée. Et c'est ce côté scientifique qu'il a voulu poursuivre tout au long du domaine pour changer, innover et en permanence s'orienter sur tout ce qui était nouveau process. C'est ce qui l'a poussé à devenir professeur d'œnologie, à faire de la recherche.
Ah oui, il s'est mis, vraiment.
Enfin, oui, hein.
Mais donc à Saint-Louis, il y avait déjà des vignes quand il a acheté.
Il y avait 3-4 hectares de vignes et il a planté jusqu'à aller à 30 hectares. Et notamment, il a planté du chardonnay, ce qui ne se faisait pas dans la région. Mais le
oui,
sol
parce
étant...
que c'est la négrette, le cépage local.
Le cépage local, c'est la négrette. Donc cépage de raisin noir où on fait principalement du vin rouge et du rosé.
Et
donc il n'y a pas de blanc dans l'appellation.
L'or,
ça.
Donc l'appellation, c'est Fronton.
Appellation Fronton, et en blanc, on est sur IGP Comté Tolosan.
Mmh. Voilà. Donc vous faites un rouge et un blanc.
Un rouge, un blanc, un rosé.
Voilà, il est à la mode, le rosé de Fronton aussi.
Alors le rosé de Fronton, ça, c'est quand même quelque chose qui a tendance à revenir à la mode parce que le côté fruité, le côté sec, mais pas forcément qui rappelle les vins de Provence, a tendance à revenir à la mode.
Et votre rosé, il est vraiment rose ou il est vraiment blanc?
Alors il est plutôt rose.
Ah, bah,
on a du
bien,
mal à faire
enfin
du blanc.
Rose,
ouais.
Comme les violettes de Toulouse.
On va dire, on se rapproche du pamplemousse.
Alors, mais la diversification, puisque donc vous êtes, enfin le château Saint-Louis est connu quand même pour le no-tourisme.
Oui.
On fait des mariages, il y a des séminaires.
Des divorces, tout ça.
Exactement. Il y a même des fêtes de divorce. Oui. On a eu des
c'est
fêtes de divorce.
Ah oui. Alors vous voyez.
Ça c'est le
vin,
jeudi,
le vin mène à tout. Mais est-ce que c'est aujourd'hui nécessaire dans l'économie d'un domaine viticole du Sud-Ouest?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on a tous nos confrères vignerons indépendants qui s'y mettent de plus en plus.
Mmh. Donc c'est un complément de revenus?
C'est un vrai complément.
La question de
ça permet de faire découvrir et aussi...
Merci Alain de traduire ma question.
Voilà. Et aussi de vivre une expérience. Les gens ne consomment plus du vin pour boire du vin comme c'était il y a 30 ans, mais plutôt pour se rappeler une belle expérience qu'ils ont vécue. Et nous, à chaque fois au Château Saint-Louis, on leur dit, vous venez pas acheter du vin, vous venez vivre une expérience et vous repartez avec un petit bout d'expérience.
Vous êtes quand même très bon en marketing, hein, Ami. Hein. Non, mais c'est vrai, elle est belle l'histoire. Alors.
Mais ce sont des gens de locaux qui viennent se marier à Fronton, parce que Fronton, est-ce que...
Alors, c'est des Suédois. Pourquoi? On ne sait pas.
On a vraiment de tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de locaux, effectivement, on doit avoir à peu près 50%. On a aussi des gens qui viennent... l'année dernière, on a eu un couple de Hong Kong qui a fait sa visite virtuelle et qui a tout réservé en virtuel.
Et ils sont toujours mariés. Hein.
Et ils sont toujours mariés, ouais. Ouais.
Non, mais c'est génial. Et ils vous ont trouvé comment? Parce que Hong Kong,
oui,
il n'y a pas de direct...
Alors, ils nous ont trouvé sur notre site internet, en tapant « mariage Fronton » dans Google, de façon assez simple.
Mais parce qu'ils aimaient le Fronton en particulier. Comment on peut marquer « mariage Fronton »
Malheureusement, Paris, pardon, c'est sorti, quand même.
Le vin n'est pas forcément peut-être leur première approche, même si l'univers leur plaît. Et ils recherchent plutôt quelque chose à proximité de leur famille. Et
ils étaient combien pour leur mariage, les Hongkongais?
Ils étaient 120.
Bon, ça va,
ça reste un petit mariage.
Ceci dit, je connais votre château puisque j'ai de la famille à côté de la Bastide Saint-Pierre et c'est très joli. Donc on peut comprendre que ça séduise.
Oui, il y a juste 120 au pays du vin, c'est un peu limité. Laure,
c'est un peu frustrant.
Je crois Alain est très en forme aujourd'hui.
Fin octobre, ça me motive.
Non, mais justement, quelle est la valorisation de Fronton aujourd'hui? Vous êtes fier de Fronton? Est-ce que c'est vraiment c'est une appellation qui a gagné?
Alors, Fronton, depuis, on va dire, une dizaine d'années, est en train de monter en gamme à travers tous ses vignerons. Il y en a pas un qui fait, on va dire, des vins d'il y a 30 ans. Mmh. C'est tout le monde est vraiment monté en gamme, que ce soit en travail de vigne, en vinification, en suivi des vins, en façon de travailler et de communiquer aussi. Tout est énormément monté en gamme pour se rapprocher des standards.
Donc ça veut dire qu'un Fronton jeune, souple, on va l'apprécier, il n'y aura pas besoin d'attendre quelques siècles.
Oui, on a des Frontons jeunes. Nous, par exemple, on fait un sans soufre de l'année. Mmh. C'est très bon, ça s'apprécie tout de suite.
Combien ça coûte vos bouteilles?
On commence à 6 euros et on va jusqu'à 38.
Ouais, c'est pas cher. Donc 6 euros, c'est quoi? C'est le blanc IGP?
Non, 6 euros, c'est un rouge. En rouge classique qu'on fait à 50% de négrette et ensuite Cabernet Franc Merlot. Ouais.
6 euros alors, c'est pas cher. Hein.
Non, mais voilà, en même temps, vous arrivez à valoriser jusqu'à 38 euros par ailleurs, donc ça c'est plutôt,
c'est ça.
Plutôt
l'idée,
bien.
L'idée c'est que ça reste des très bons rapports qualité-prix, des grands vins abordables et que ça puisse permettre...
Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat avec un bon Fronton, là, du truc light, du cassoulet, des...
Des grillades, même des poissons, ça passe aussi très bien.
Il suffit de jouer sur la température de service.
Exactement.
Des poissons, frais, ça,
le fruit, on n'y pense pas, mais un Fronton négrette frais, autour des 10 degrés, ça passe vraiment très très bien.
Et le potentiel de garde, donc on peut les attendre aussi, c'est bien?
Nous, on a ouvert récemment des bouteilles qui avaient plus de 20 ans sur un château Saint-Louis classique, et c'était toujours très très bon. On a été vraiment surpris.
Et est-ce que votre papa est satisfait au niveau scientifique de toute cette expérience?
Je pense que oui, en termes de... de progression du vignoble, de la qualité des vins à chaque fois. Oui, on a toute cette traçabilité, toute cette façon de faire et cette progression scientifique qui nous a amené au bio d'ailleurs. Pour passer des traitements qui pénètrent à l'intérieur à des traitements de contact. Enfin, voilà, il y a une vraie démarche pour améliorer à chaque fois la qualité.
Bon, bien sûr, vous exportez à 98% en Iran.
On va dire le climat s'y prête pas trop. Donc,
mais un jour peut-être.
On a du jus de raisin, ça peut-être un jour, mais c'est pas nocif.
Bon, super, en tout cas, parfait. Il y a un site internet pour le prochain mariage.
Il y a un site internet, c'est châteausaintlouis.fr. ou.com pour les anglophones.
Merci beaucoup Benoît, Laure et également notre ami alsacien Étienne, ainsi que Philippe Forbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve demain donc dimanche, ça sera à 13h pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous parlerons de Bordeaux avec le château Jouvente. À Bordeaux, nous parlerons également de la solution solubatique. Voilà, d'ici là, restez fidèles à Sud Radio et encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.